Radio Kapi.
Le journal Noéla Luzitu Kabambi.
Les cours ont repris dans la province du Sud Kivu. Les enseignants ont résolu de reprendre le chemin de l'école après 2 mois de négociations avec le gouvernement sur l'amélioration de leurs conditions salariales. Lancement ce mardi du mécanisme de vérification ad hoc renforcé. La cérémonie se tient à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Ce mécanisme rentre dans le cadre du processus de Luanda, principal dispositif de négociation entre la RDC et le Rwanda à propos de la situation de guerre dans l'est de la RDC. Le secrétaire général de l'intersyndicale des magistrats et l'invité de ce journal, Henri Dianda, va parler des états généraux de la justice qui devront se tenir du 6 au 13 novembre courant à Kinshasa. Bonjour à tous. Nous commençons par l'éducation formelle pour annoncer la fin de la grève des enseignants du cycle primaire dans la province du Sud Kivu. Les professionnels de la CRE ont résolu de reprendre le chemin de l'école depuis hier, 4 novembre, après 2 mois de négociations avec le gouvernement sur l'amélioration de leurs conditions salariales. Les enseignants promettent de récidiver au cas où les promesses ne sont pas tenues dans les 3 mois qui suivent. Jean Kassami a fait le tour dans quelques écoles de Bukavu cet avant-midi. Suivez son reportage.
Les élèves et les enseignants ont répondu à l'appel dans la classe de 6e année à l'école primaire 8e CEPA Kengouba. Ici, la matière est prise au sérieux.
Nous sommes en train d'étudier le calcul du prix d'achat. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver le prix d'achat?
On va faire prix de vente moins bénéfice.
Non, ça sera
2000 francs,
oui.
Moins 500 francs.
C'est égal à combien calcul maintenant?
Le président urbain des comités des parents des écoles conventionnées protestantes 8e CEPAC met en garde les gestionnaires qui exigeraient le paiement de la prime aux parents d'élèves. Louvouluolo Mao.
Ça ne se fera pas. L'association des parents n'est pas là pour freiner les décisions du chef de l'État. La gratuité, c'est la gratuité. L'école en convention avec les parents, ce comité scolaire sera traduit en justice.
D'autre part, l'archevêque de Bukavu, Mgr François-Xavier Maroy, invite les enseignants au sens des sacrifices, tout en reconnaissant les conditions de vie difficiles que ces derniers traversent. Il l'a dit hier au cours de la messe à l'intention des gestionnaires et enseignants des écoles conventionnées catholiques. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Pendant ce temps, à Lubumbashi, on signale qu'un incendie s'est déclaré hier lundi au lycée Chiondo, l'une des grandes écoles du réseau catholique de la capitale du Haut-Katanga. Les élèves en sont sortis indemnes, mais on déplore de nombreux dégâts matériels. D'autres détails avec le commandant de la brigade anti-incendie de la ville de Lubumbashi, qui a conduit une équipe de sapeurs-pompiers sur le lieu du drame. David Bibou est au micro de Jean Gando.
Le réfectoire était sensiblement affecté par les flammes qui a commencé à se propager. Comme c'était à l'étage, il fallait déployer notre garniture jusqu'à faire monter et placer l'échelle pour que les pompiers puissent grimper sur le montant et voir de plus près le feu qui saccageait le lycée Chondo. C'est toujours le courant électrique qui est à la base. Pourquoi? Parce que les installations sont des vieilles installations, faites depuis l'époque coloniale. Il y a des petits rongeurs qui circulent dans le plafond. Il y a des chats, il y a des souris, jusqu'à ce que les fils conducteurs auront des plaies au risque de créer de courts circuits avec notre courant. Tout moment de coupures intempestives, le lycée Chondo est le 154e cas d'incendie pour cette année 2024. Beaucoup de lits de monstres et tous ceux qui étaient dans cette salle sont partis en fumée. Merci à Dieu parce que tous les élèves, on les a évacués calmement, sont bel et bien sortis indemnes.
Et puis, de Calémie, nous apprenons que les restes d'une fillette de 8 ans ont été repêchés dimanche dernier au niveau du village Mizimwe, à environ 30 km de Kabimba, territoire de Calémie sur les littorales du lac Tanganyika. D'après des témoins, la victime a été happée par un crocodile samedi dernier. Depuis Calémie, Paulin Munanga.
Effectivement,
Cette fillette est la quatrième victime des crocodiles dans les territoires de Kalemi depuis le début de cette année. En août dernier, les restes d'une femme et de son enfant ont été retrouvés au village Kilindila sur le littoral du lac Tanganyika. D'après l'administrateur du territoire, les victimes se rendaient au lac pour puiser de l'eau quand elles ont été happées par un crocodile. Au mois de février dernier, un corps sans vie d'un enfant de 15 ans a été repêché sur le lac Tanganyika. Des témoins ont rapporté que la victime s'est baignée au bord du lac Tanganyika lorsqu'elle a été happée par un crocodile. Au cours de l'année 2023, le bilan des attaques de ces prédateurs fait état de 6 morts dont 2 corps n'ont jamais été retrouvés. Il y a eu aussi des personnes grièvement blessées. Face à cette situation, l'administrateur du territoire de Kalemi sensibilise régulièrement ses administrés que c'est dangereux de fréquenter le lac Tanganyika après 17 heures. Il a déjà envoyé des correspondances à la hiérarchie pour le refoulement de ces crocodiles, mais il n'y a pas de suite. Kalemi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Parlons à présent du processus de Luanda. Avec le lancement officiel ce mardi 5 novembre du mécanisme de vérification ad hoc renforcé, la cérémonie se tient à la frontière entre le Rwanda et la RDC. Sous la direction de l'Angola, ce mécanisme vise à assurer un suivi du cessez-le-feu conclu récemment entre les deux États et aussi vérifier les accusations mutuelles d'agression et d'attaque entre le Rwanda et la RDC. Le point avec Sifa Maguru.
La grande barrière entre Goma et Gisenyi est restée fermée à tout mouvement migratoire toute la matinée de ce mardi à la suite de cette cérémonie officielle entre la RDC et le Rwanda. Tous les passagers étaient orientés vers la petite barrière. Cette structure régionale, lancée officiellement ce mardi, devra intégrer les officiers des liaisons congolais et rwandais en charge de veiller à un suivi impartial de la violation du cessez-le-feu, mais aussi des accusations mutuelles d'agression et d'attaque entre le Rwanda et la RDC. La mise en place du mécanisme de vérification est consécutive aux conclusions de la réunion des experts de défense et sécurité du 31 octobre dernier à Luanda. La RDC est représentée à cette cérémonie par la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, qui est arrivée ce mardi matin à Goma. Signalons que sur terrain, pendant ces temps, des combats opposent toujours les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais aux FARDC et groupes armés Wazalendo en violation constante de ces accords de cesser les feux. Depuis la grande barrière, Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Et justement, sur le terrain des affrontements, la situation demeure tendue ce mardi dans le village de Kahira, chefferie des Bachali, territoire de Masisi, au nord Kivu. Kahira a été le théâtre toute la journée d'hier lundi des violents combats opposant le M23 à la coalition des groupes armés ANCDH de Jean-Marie et APCLS de Janvier Karairi. Délogés du centre de Kahira hier matin, ces combattants Wazalendo sont revenus à la charge le soir. Selon des sources locales, jusque tard dans la soirée, des tirs étaient encore entendus dans cette zone vidée de ses habitants. Alors qu'une accalmie relative s'observe à Kahira, des tirs nourris sont entendus aussi depuis la matinée de ce mardi dans le village de Bwero-Ingundu, un peu plus au nord de Kahira. Ce sont les combattants du M23 qui s'affrontent avec la même coalition ANCDH et APCLS. Toujours en ce qui concerne la situation sécuritaire dans le pays, le vice-ministre de la Défense nationale a lancé hier en Ituri un appel à la jeunesse à la prise de conscience pour la défense de la patrie face aux ennemis de la nation. Sami Adubango a exhorté les jeunes de l'Ituri à ne pas soutenir les groupes armés locaux et étrangers ni à se laisser manipuler par des personnes mal intentionnées. Propos tenus à Bunia lors de la cérémonie du lancement de la campagne de l'éveil patriotique de jeunes pour la paix. Les propos de Sami Adubango ont été recueillis par Sadiki Aboubakar.
À cette période de grands défis sécuritaires, la République démocratique du Congo a plus que jamais besoin de notre énergie, de votre patriotisme et de votre unité. La jeunesse est le bouclier de notre nation, la barrière contre ceux qui cherchent à affaiblir notre paix et notre dignité. Ce pays appartient à la jeunesse et c'est ensemble que nous les protégerons. Ne laissez personne, notable ou politicien, qui qu'il soit, affaiblir votre attachement à la patrie. L'armée congolaise a besoin de vous. N'allez pas dans les groupes armés communautaires. Défendez et construisez notre belle patrie.
Retour au Nord Kivu, où le gouvernement provincial vient de renouveler le stock des vivres pour les détenus de Mounzenze, la prison centrale de Goma. C'est hier lundi que la conseillère principale du gouverneur militaire, qu'accompagnait le maire de Goma, a remis entre les mains du directeur adjoint de cette maison carcérale la nourriture achetée par la province. Une action qui fait suite à la sonnette d'alarme tirée en fin de semaine dernière sur le manque de vivres et de médicaments pour plus de 4000 pensionnaires de cette prison depuis environ 4 mois. Chris Mukonde.
L'autorité provinciale, le général-major Peter Chirimwami Nkuba, prend l'engagement de répondre aux appels de détresse des détenus qui subissent des conditions de vie extrêmement difficiles. C'est en substance le mot des circonstances de Prisca Luanda Kamala, conseillère principale du gouverneur militaire chargé des affaires sociales, pour accompagner la remise des vivres en faveur des locataires de Mounzenze. Dans l'eau, on trouve 200 sacs de farine de maïs, 10 sacs de haricots, 10 bidons d'huile, 5 paquets de sel et 10 cartons de tomates concentrées. La disette dans la prison centrale de Mounzenze dure depuis près de 4 mois, période qui coïncide avec le désengagement de la quasi-totalité des partenaires humanitaires qui prenaient en charge l'alimentation et les soins de santé des détenus. Depuis lors, chaque prisonnier devrait vivre de la charité ou de la solidarité de ceux de l'heure qui reçoivent de la visite familiale. Cette intervention du gouvernement provincial du Nord Kivu constitue une réponse significative aux besoins urgents de la prison de Mounzenze, a reconnu le directeur adjoint de cette institution. Il rappelle par cette occasion qu'il n'y a pas de médicaments à l'infirmerie. Pour ce gardien de Mounzenze, il faudrait songer à désengorger cette maison carcérale. Chris Mukande, Radio Kapi, Goma.
Et puis cette alerte concernant la nationale numéro 1 dans son tronçon Kinshasa-Kikwit-Kasai en passant par la province du Kwango. Cette partie est de nouveau menacée de coupure en pleine ville de Kenge, chef-lieu du Kwango. Et le village Kinzwanga, non loin du pont Kwango, court le même risque. La situation s'est aggravée après les dernières pluies. Le président de l'Assemblée provinciale qui lance ce cri de détresse dit avoir réuni les services provinciaux à ce sujet. À l'issue de cette réunion, il est décidé de déployer une équipe à Kinshasa pour un plaidoyer urgent auprès du gouvernement central pour éviter la catastrophe. Irène Bomaluzolo pour plus de détails.
C'est précisément à quelques mètres de la statue dénommée Femme Pléresse au quartier Kikwit, en pleine ville de Kenge, qu'il s'observe un risque imminent de coupure de la RN1, une route d'importance économique très capitale. Situation consécutive à une grosse tête d'érosion qui progresse vers la chaussée, à la suite des récentes pluies abondantes abattues sur cette ville. Le président de l'Assemblée provinciale du Kwango s'est rendu sur les lieux pour s'inquiéter de la situation. André Massala.
C'est l'érosion qui est en train de menacer la route numéro 1, donc Kinshasa jusqu'à Kikwit, dans les Grands Kassai. Si rien n'est fait, il y aura cassure. Il n'y aura plus de voies accessibles sur cette route-là, donc il y aura un blocage total. Nous avions essayé un peu de discuter là-dessus avec les ingénieurs techniciens, une réunion d'urgence. Nous avions pris une décision qu'il y ait une descente urgente à Kinshasa avec le gouverneur pour qu'il puisse voir les ministres nationaux des ITP. C'est pourquoi nous prions au ministre national des ITP d'intervenir rapidement parce que les dangers imminents vaut mieux prévenir que guérir.
Rappelons que cette même route était aussi sur le point de se couper au niveau du village Kinzwanga, toujours au Kwango, où les travaux de réhabilitation sont en cours d'exécution par l'OVD. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
14 personnes âgées de 9 à 21 ans sont mortes foudroyées le week-end dernier dans une église de fortune dans un camp de réfugiés du nord de l'Ouganda. L'incident survenu dans le district de Lanvo a été confirmé dimanche par les autorités locales. Une cinquantaine de personnes, pour la plupart des réfugiés sud-soudanais de la communauté Nuer, s'étaient abritées dans cette structure métallique du camp de Palabek lors d'un violent orage. En plus des victimes décédées, 34 autres personnes ont été blessées. La foudre frappe régulièrement l'Ouganda pendant la saison des pluies, causant de nombreux décès. En 2011, elle avait déjà tué 18 écoliers et 9 adolescents dans une école primaire.
L'invité.
Il devra se tenir dès demain 6 jusqu'au 13 novembre les travaux des États généraux de la justice sous le thème Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir? Les magistrats représentés par leur syndicat disent attendre beaucoup de ce grand forum sur des réformes non achevées, notamment la non-application des résolutions des États généraux de 2015. Pour en parler, Radio Okapi reçoit le secrétaire général de l'intersyndicale des magistrats et président du syndicat chrétien des magistrats du Congo. Henri Dianda s'entretient avec Jeff Ngoy. Suivez.
Henri Dianda, bonjour.
Oui, bonjour.
Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir? Vous, en tant que magistrat syndicaliste, vous pouvez comprendre le choix de ces termes.
Des états généraux, c'est pour diagnostiquer de l'état de la justice aujourd'hui, comme ça l'a été en 2015, comme ça l'a été avant 2015, donc avec les états généraux qui ont eu lieu
en 2004,
il y a eu aussi des travaux comme ça qui a dû produire un plan d'action en 2007, donc un plan d'action de 2007 à 2012 qui devait pouvoir régir la politique nationale de la justice. Et bien, je crois qu'après que nous ayons ce document-là, le document qui a eu en 2007 sur la politique nationale, sur la justice du pays, on a, en 2012, il était arrivé à son terme. Je crois que 3 ans après, on a considéré qu'il y avait encore à faire et que, bon, ce plan d'action-là n'avait pas donné ou le résultat qui avait été escompté et qu'on a estimé que, ben, il fallait qu'on puisse faire des états généraux. Et c'est au base des états généraux qu'il y a eu en 2015. Ils ont pu tirer plus de 350 résolutions pour avoir en 2017 carrément un plan. Pour aujourd'hui, s'il y a encore des états généraux, c'est-à-dire 9 ans après, nous estimons que le magistrat suprême, qui est le chef de l'État, a estimé, parce que c'est lui qui a parlé de la maladie de l'appareil judiciaire, c'est dire qu'il a voulu qu'on puisse poser encore un diagnostic ou bien évaluer ce qui avait déjà été fait ou bien l'état de la justice actuelle.
Vous avez évoqué les états généraux de 2015 qui avaient produit un document de politique et de réforme de la justice pour la période allant de 2017 à 2026. Est-ce qu'on n'est pas en train de refaire le même travail?
Je crois que la politique judiciaire est définie par le gouvernement et que, bon, on a vu qu'il y avait des faiblesses par rapport à ce document-là et qu'il fallait peut-être le réévaluer pour que l'on puisse avoir un autre document qui soit un peu plus efficace pour arriver à donner des solutions aux problèmes qui avaient été posés à l'époque. Parce que je crois que la grande thématique lors des assises de 2015, c'était sur l'accès à la justice. C'est également un point particulier sur la moralisation des acteurs de la justice. Donc, si on doit dire, c'est une chaîne. Hein. Il ne s'agit pas seulement des magistrats quand on parle de la justice. Hein. Tous les intervenants, hein, même des organisations non gouvernementales, hein, qui est des partenaires aussi qui interviennent. Donc, vous comprenez. Donc, si aujourd'hui on va aux états généraux, nous disons que on a considéré que bon, il y a des faiblesses quelque part, mais qu'il fallait voir comment est-ce qu'il arrivait à donner une thérapie. Je sais que bon, en 2015, il y avait 8 thématiques qui avaient été exploitées pour que ça puisse fondre et arriver à donner à peu près de 350 résolutions.
Il y a par exemple la politique pénitentiaire qui était bien définie en 2015 avec la création d'un organe de gestion de nos prisons qui était prévu.
La DGAP, voilà. Écoutez, mais par exemple, vous avez vu que nous avons eu des problèmes ici avec nos prisons. Oh, excusez-nous, nous avons fait partie de ce groupe thématique sur le pénitentiaire. Mais aujourd'hui, on sent que c'est vraiment un besoin. Les textes sont pratiquement prêts, à ce que je sache. En ce qui concerne la DGAP, la loi devant organiser cette direction-là qui, en principe, doit être implémentée au niveau de toute la République. Mais qu'on aille sur le plan pénitentiaire, voilà des problèmes qu'il y a, qu'on puisse aller d'abord avec cette loi-là. Ça va nous aider à ce que nous puissions pas chaque jour crier comment est-ce que le magistrat du parquet n'a pas fait son travail, où il y a des libérations conditionnelles qui doivent être préparées ici et là. On commence à chercher des responsabilités à gauche et à droite. Voilà, par exemple, des problèmes qu'il y a. Le cadre de concertation que nous disons aujourd'hui entre le ministère de la Justice et le CSM, je crois que ça va être très formel. Aujourd'hui, on sent encore qu'il n'y a pas tellement des interactions.
Maintenant, qu'est-ce que vous attendez de ces états généraux de la justice?
Lorsque, au jour d'aujourd'hui, le chef de l'État qui est magistrat suprême dit que la justice de son pays est malade, je crois qu'il sait de quoi il s'agit. Il sait où se trouvent les problèmes. Il doit savoir, parce qu'il dit aujourd'hui qu'on puisse poser le diagnostic. Au bout du diagnostic qui sera encore posé aujourd'hui en 2024, je crois qu'à partir de ça, le chef de l'État, je crois, tirera des conséquences sur base de ce qui lui va lui être présenté en sa qualité de magistrat suprême. Nous n'allons pas revenir. Il y a des problèmes du budget et du Conseil supérieur de la magistrature, du pouvoir judiciaire, par exemple. Un pouvoir, on dit un pouvoir qui n'est pas autonome dans son budget. Comment est-ce qu'il est à mesure de tenir des investissements? Parce qu'au-delà des salaires qui sont payés aux magistrats, mais il y a quand même d'autres choses qui peuvent être faites. Il y a des bibliothèques qui n'existent pas. Il y a des bâtiments qui, lorsque vous allez dans l'arrière-pays et que vous n'allez pas trouver, comment est-ce qu'on va arriver à résoudre ces problèmes-là? Je vous ai posé le problème ici des magistrats, de leur transport et tout ça. Ça n'existe pas. La formation continue des magistrats, ça n'existe pas. Il faudrait seulement que nous puissions avoir des partenaires étrangers qui viennent pour organiser des ateliers, pour la mise à niveau des magistrats.
contact. Non, il faut qu'il y ait une formation continue. Et cela sort d'où? Comment cela doit pouvoir être fait? Je crois qu'au bout de ces réflexions-là, si on arrive à poser un diagnostic sérieux, je crois qu'on peut remettre ces résolutions-là sur la table du chef de l'État, qui est magistrat suprême, pour voir dans quelle mesure il peut orienter les choses, pour voir la justice de son pays être guérie ou bien soignée, si on doit le dire comme ça.
Henri Dianda, je vous remercie.
Merci beaucoup, chef.
Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal qui arrive à sa fin. Un journal coordonné et présenté par Noëlla Luzitu Kabambi dans une mise en onde de Billy Landry Betou. Suivez à présent sur Radio Kapi le journal de sport dans une présentation de Kaniche Mukongo.